Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Olivier Steiner, qui publie « La vie privée » à l'Arpenteur, chez Gallimard. Rien n'est banal quand on parle vraiment. La vie privée, Olivier Steiner, n'est pas votre premier roman. Il y a 2 ans, chez Gallimard, vous avez publié Bohème, un roman qu'on pourrait dire épistolaire, encore qu'il s'agit moins de lettres que de mails, car c'est aujourd'hui que vous situez les choses, et c'est vrai encore dans la vie privée. La littérature nous parle du monde dans lequel nous vivons.
Oui, et la littérature se pose sur la vie. Bohème était... Un premier roman qui s'est cherché, qui ne s'est peut-être pas trouvé. Un premier roman qui voulait embrasser beaucoup de choses. La vie, l'amour, la mort, la passion, la dépression. Avec la vie privée, c'est un peu comme si j'ai essayé de décrire l'antithèse de ce premier roman.
Pourquoi fallait-il écrire l'antithèse ?
Parce que le premier roman a un côté, pour moi, qui est écœurant. Il y a un certain lyrisme que je peux vivre dans ma vie privée, personnelle, mais un lyrisme qui m'a dépassé, envahi et qui s'est déversé dans ce premier roman de façon... un peu chaotique. Et bon, voilà, je n'ai pas du tout envie de dire que je... Enfin, je ne renie pas, évidemment, ce premier roman. Mais j'avais besoin de... J'ai même pensé écrire une deuxième version. Peut-être comme j'avais... Ça m'avait rappelé ce qu'avait fait Duras avec L'Amant et ensuite L'Amant de la Chine du Nord. Mais évidemment, je ne suis pas Duras et là, il s'agit d'un premier roman. Donc, je ne peux pas me permettre de publier une deuxième version dans la foulée.
Surtout qu'il y avait déjà eu plusieurs versions envisageables de ce premier roman. À la première, vous aviez imaginé une fiction entre des personnes réelles. Oui. Diane Arbus, la photographe, et Marilyn Monroe,
oui.
Un mois avant sa mort.
Oui, tout à fait.
Et puis, vous vous êtes rendu compte que vous vous cachiez. derrière Marilyn, pour dire des choses de votre vie privée, précisément.
Oui, c'est ça. J'ai eu l'impression que je me cachais derrière Marilyn ou Diane Arbus, mais surtout, plus de façon plus prosaïque, faut dire les choses telles qu'elles sont, ça m'est tombé des mains. C'est-à-dire que le roman à la troisième personne, le roman, la composition de personnages, je ne m'est totalement tombé des mains et je pense que je ne suis pas capable d'écrire ça. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui y arrivent. D'ailleurs, je lis ce qu'on appelle des vrais romans. Mais moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire parce que je n'ai pas d'endurance quand il s'agit de ce qu'on appelle le roman flaubertien. Très vite, je n'y crois plus. Très vite, ça sonne faux pour moi. Et comme je suis j'ai du mal à faire les choses sans désir, bon, j'arrête. Voilà.
Mais là, pour que ça sonne juste, vous avez remplacé le vrai, c'est-à-dire les personnes réelles, par le faux, c'est-à-dire des personnages imaginaires, deux filles par deux garçons, Pierre et Jérôme. Jérôme, un inconnu, et Pierre, un homme célèbre, un metteur en scène. Jérôme, la bohème de Pierre.
Oui. Oui, il y a une phrase dans Bohème, dont je me souviens très bien, parce que ce n'est pas une phrase que j'ai écrite, mais c'est une phrase que l'on m'a adressée. « Vous êtes ma bohème, ma part manquante, mon contraire indissoluble. » Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas remplacé Marilyn et Diane Arbus par Jérôme et Pierre, c'est que je me suis dit « Pourquoi je n'y arrive pas ?» Pourquoi ces masques que sont Marilyn et pourquoi ces obsessions? Voilà, et puis j'ai fait un tout petit travail de sincérité vis-à-vis de moi-même et je me suis dit, mais voilà, oui, en fait, derrière le visage de Marilyn, derrière l'objectif de Diane Arbus, j'ai envie de parler de telle et telle personne. Et j'ai un goût, une passion pour la vérité. C'est pas de l'ordre de l'éthique, c'est plus sensuel. C'est-à-dire que j'ai la vérité, entendons-nous bien, c'est-à-dire que je suis bien conscient que la vérité, c'est toujours quelque chose qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Je ne dis pas que la vérité est un objet fixe que l'on peut conquérir une fois pour toutes, du tout. Mais c'est une direction, c'est une tension. Et être vrai ou avoir le sentiment, la sensation d'être sur un chemin de vérité me rend plus heureux, moins malheureux. C'est aussi simple que ça, aussi bête que ça.
Ce que vous voulez surtout, c'est ne pas mentir.
Oui. Tâcher de ne pas mentir. Sachant que les premiers mensonges et les plus graves, ce sont ceux que l'on se fait à soi-même. Bon.
La littérature n'est pas un bal masqué.
N'est pas un carnaval, non. Ou, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai cette obsession. C'est un peu comme si j'étais. Je bafouille. Parce que là, je parle d'état amoureux. Je suis presque amoureux de la vérité. D'ailleurs, je tombe amoureux de gens qui me semblent vrais. C'est la qualité qui me semble première. De gens qui s'abandonnent, des gens qui lâchent un peu, qui se risquent. Eh bien, puisque c'est bien beau, je ne vais pas parler de vérité en général, on ne va pas passer son temps à invoquer la vérité, il faut aussi lui donner des preuves.
Ouais. Est-ce qu'elle est amoureuse de vous, la vérité ?
Ah, j'en sais rien. Je suis pas forcément très heureux tout le temps. Hein, donc, vous voyez, c'est compliqué.
Vous n'êtes pas tout à fait son genre.
Peut-être. Peut-être. Mais pour en revenir à ces personnages de Bohème, bon, Jérôme, qu'on ne connaît pas, il se trouve que Olivier Steiner est un pseudonyme, que pas du tout un nom de plume. Hein. J'ai changé de nom à l'âge de 22 ans, quand je suis arrivé à Paris, et à cette époque-là, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire. J'étais comédien. Et il se trouve que mon prénom d'état civil est Jérôme. Donc je fais de Jérôme un personnage dans un roman, et Pierre, le metteur en scène célèbre, maintenant je peux le dire parce que je peux et j'ai envie de le dire, mais en toute modestie, avec un maximum de respect, il s'agit de Patrice Chéreau. C'est Patrice Chéreau qui est à l'origine de ce personnage. Patrice, qui a été le premier lecteur du manuscrit de Bohème, je n'avais pas du tout l'intention de l'envoyer à une maison d'édition sans son autorisation. Il me l'a donné du bout des doigts en me disant « Écoute, c'est pas moi qui vais censurer un texte. » Il m'a dit « Ça pourrait être mieux. » Mais c'est un début. Et il m'avait simplement dit « Tant que je suis en vie, évite de trop parler de moi. » Il m'avait d'ailleurs dit « Ça te desservira. » J'ai tenu, bien sûr mon entourage proche sait qu'à l'origine de Bohème, il y a une histoire que j'ai eue avec Patrice, une histoire d'amitié, une amitié particulière. Mais c'est vrai que tant qu'il était vivant, j'ai respecté son souhait, qui est son vœu de discrétion, c'était quelqu'un de très discret. Donc voilà, je n'avais absolument pas prévu de vous dire ça. Je ne sais pas si c'est vraiment important de le savoir, d'ailleurs. Mais comme on parlait de vérité...
Donc dans Bohème, Jérôme, c'est le prénom que vous portez réellement à l'état civil.
Oui.
Et dans La vie privée, le nouveau livre, l'un des trois personnages s'appelle... Olivier, qui est votre nouveau prénom.
Oui. D'où les liens entre les deux, entre les deux romans, textes. D'où l'idée d'antithèse dont je parlais. Et pour moi, les deux textes sont vraiment corrélés, enfin sont liés.
Le souci de vérité suppose que l'expérience soit le moteur de l'écriture.
Oui. Je dirais que le moteur de l'écriture, ça me semble être, dans mon cas particulier, plus la mémoire. Et l'expérience, c'est le point de départ, le motif, vous voyez, moteur-motif. Et là, dans ces deux cas particuliers de Bohème et de La vie privée, il s'agissait beaucoup moins de raconter ma vie, Ça, je le fais, hein, je peux le faire sur Facebook régulièrement, mais c'est, me semble que c'est, ce n'est pas, ce ne sont pas raconter sa vie n'est pas un livre, n'est pas bon. Là, j'ai c'est un peu comme si j'avais eu, enfin oui, j'ai eu le sentiment d'avoir deux problèmes, même avec. Le sens scientifique que ça peut avoir, un problème presque mathématique comme une équation. Et ça, ça déclenche l'écriture. Parce que, voilà, c'est ça, ça crée la dynamique, le moteur ensuite, qui est alimenté par la mémoire. La mémoire qui donne, au fur et à mesure de l'écriture, ce qu'elle veut, quand elle veut. Comme disait, enfin, je pense au. Au recueil de textes de Pierre Michon, Le roi vient quand il veut. C'est un texte. C'est un livre magnifique. Qui
D'entretien.
D'entretien, oui. Ouais.
Là, il y a plusieurs espaces, plusieurs temporalités, mais vous avez voulu que le récit soit d'un seul tenant. Sans une ligne de blanc.
Oui, et c'est pour ça que je dis texte plus facilement que roman. Texte et quand j'étais, j'ai grandi à Tarbes et Lourdes, et donc à l'école. Au lycée, j'avais quelques professeurs catholiques, c'est la région. Soit catholiques, soit d'ailleurs franchement communistes. C'est comme si ça allait de. Ça va ensemble. Voilà. Et j'avais un prof de français, comme un de mes premiers chocs littéraires, de lecture, c'est un prof de français qui nous avait fait travailler sur Bossuet. Et je trouvais ça magnifique. Et notamment, nous faisait lire à voix haute Bossuet, les sermons. Et la vie privée, ce dernier texte, découle très directement de la mort d'un proche, qui un vieux monsieur, Émile. Dont je me suis occupé pendant 3 ans.
C'est ce qui est raconté, du reste.
C'est ce qui est raconté, tout à fait.
Cet homme qui dit au jeune homme, donc Olivier, étudie et écoute. Étudie, Olivier, travaille, écris, ne t'arrête jamais, jamais.
Bon, et bien là, vous voyez, je vais être vrai. Enfin, je vais être sincère, cette phrase-là n'a jamais été prononcée par ce vieil homme, mais c'est Patrice qui m'avait dit ça, qui m'avait écrit ça, en fait. Donc, il y a des déplacements. Parce que le vieux monsieur en question était atteint par une maladie neurodégénérative et a très vite été aphasique. Donc, on communiquait par des gestes. Le langage du corps, le regard. Il avait toute sa tête, mais il parlait très peu, et en tout cas, il ne me parlait pas comme ça. Donc, j'ai écrit peut-être aussi sur son silence. J'ai peut-être écrit ce que j'aurais voulu entendre, ou ce que j'aurais voulu, dans une vie idéale, lui dire.
Il est clair que Émile, donc ce vieil homme... Et précisément le mort qui perce à jour le vivant, Olivier. Et toute la maison, car le livre est un huis clos, est devenu le regard d'Émile.
Oui. Ça, je l'ai senti de façon très physique. Juste après la mort d'Émile, je l'ai senti... J'ai vécu d'autres morts, des amis, des gens de ma famille. Mais la mort de quelqu'un avec qui on a vécu comme ça le quotidien, nuit et jour. Et en, un rapport au corps très intime et très concret. Évidemment, ce vieil homme n'était pas mon amant. Mais je prenais soin de lui, je le changeais. Il y a toutes sortes de soins nécessaires. Et donc ça crée une intimité de folie, enfin, de dingue. Enfin, une intimité très très grande qui est difficile à exprimer d'ailleurs. Et c'est à la mort, quand on se retrouve soudainement devant le corps sans vie, qu'on mesure l'ampleur de l'intimité. Parce que tant qu'il y a de la vie, tant que l'autre est en vie, et que l'on est soi-même en vie, il y a comme un brouillage. La mort rend plus nette les choses. J'ai l'impression de, paradoxalement, de mieux le voir. Et j'ai eu l'impression que toute la maison, effectivement, devenait son regard, comme si lui aussi avait été, comme si la mort l'avait rendu immensément voyant et présent. Et la vie privée et la tentative, d'où le seul paragraphe, d'où l'absence de saut de ligne, et tout ça, c'est la. Mon objectif du départ était de. Je me souviens très très bien de ce matin-là, quand je me suis réveillé, que j'ai su, compris, vu qu'il était mort. Parce que c'est. Il fait encore partie des personnes qui ont eu la chance de ne pas mourir à l'hôpital. Et là, dans les fractions de secondes, les minutes, la dizaine de minutes qui suit, il se passe quelque chose de très très particulier. C'est pas la tristesse. On n'est pas triste encore. On n'est pas du tout triste. Le deuil viendra, mais beaucoup plus tard. On est juste comme. Il y a une impression de tampon. Peut-être que les psychanalystes parleraient de sidération. Mais bon, c'est pas exactement ça non plus. C'est quelque chose de. Oui, on est frappé et tout est. Le réel est tout d'un coup perçu avec une acuité extraordinaire. Et voilà, ce que j'ai essayé d'écrire, en fait, c'est juste ces 10 minutes. À des premiers titres possibles au texte. A été 10 minutes. J'aurais peut-être dû garder ça, j'en sais rien. Mais le fait est que bon, je ne suis pas arrivé à vraiment sauvegarder cette temporalité-là. En écrivant, il a fallu que je dilate le temps. Donc ça se passe sur une journée. Au lieu de 10 minutes. Mais sinon, dans ma tête, c'était vraiment ces 10 minutes-là.
Donc, Émile mort dans sa chambre, alors qu'Olivier s'apprête à recevoir un inconnu. On entend le bruit de la voiture. Et l'inconnu monte à l'appartement. Olivier va se soumettre à lui entièrement.
Oui. Et alors là, j'ai pas d'explication. Parce qu'au départ, donc, j'écrivais la relation, comme ça, entre ce vieil homme, malade, mourant, et ce narrateur, Olivier, qui sorte de SDF amélioré, vivait dans cette maison, qui était logé, nourri, qui d'une certaine façon à l'abri du monde, et en échange, il s'occupait des mille. Mmh. Voilà. Au départ, c'est ça que j'écrivais.
Et il écrivait aussi, Olivier.
Et Olivier. Olivier écrivait aussi, oui. Olivier était à la recherche d'un toit. D'un toit et de temps.
Théoïté et Théoï.
Bien sûr. Voilà. Alors, je crois, je ne suis pas sûr, mais je crois que... c'est une phrase, je crois que c'est une phrase de Jacques Lacan. Quand le besoin rencontre le besoin, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que le besoin d'Émile a rencontré le besoin d'Olivier. Et paf, là, dans ces cas-là, ça match, comme on dit au cinéma. Bon, donc j'écrivais ça. Et comme avec Marilyn et Diane Arbus il y a quelques années, ça m'est également tombé des mains parce que je suis pas très endurant quand j'écris, je m'angoisse vite. Bref, j'ai arrêté à plusieurs reprises. J'ai arrêté et en me disant de toute façon je ne peux pas parler de ça, c'est trop proche, trop etc. Et j'ai commencé un autre texte. Et ce texte, c'était un texte sexuel, érotique, pornographique, obscène. Je l'ai commencé sans penser à publication, mais je ne sais pas, j'ai eu envie de... Et puis, même chose, ça m'est tombé des mains. Et je suis revenu à Émile et Olivier. Et j'ai fait comme ça des va-et-vient. Jusqu'à ce que je me dise, mais... au lieu de faire des va-et-vient entre deux projets que j'ai l'impression d'avoir séparés, oui, je me suis dit que c'est peut-être la même chose. Donc, j'ai juxtaposé les deux histoires et ça m'a donné le cadre de la maison, le premier étage de la mort, là où se trouve la chambre d'Émile, et le rez-de-chaussée du sexe. Et le point commun entre les deux, un des points communs, parce qu'il y a tous les points communs qui me dépassent. Je ne sais pas grand-chose quand j'écris. Je pense que c'est le cas de plein d'auteurs, d'ailleurs. On ne sait pas... Enfin, je n'ai pas de plan. Je ne sais pas. J'y vais. Ça vient. Bon. Et... c'est pas l'inspiration non plus, d'ailleurs. C'est quelque chose de... Ou alors c'est l'inspiration au sens de respirer, inspirer de l'air. Mais je veux dire, c'est pas la muse, hein. Mais c'est quelque chose de très concret, de manuel aussi. Ça vient en faisant. Bon, voilà. Et j'ai perdu le fil.
Vous parliez de la maison.
Oui, la maison. D'où les... Les va-et-vient entre les deux histoires m'ont donné l'idée, voilà, de la trame géographique, pas de la trame, mais du décor. Enfin, décor, c'est pas un joli mot, mais
on pourrait dire mixage. On était à la radio.
Voilà, mixage. Mixage en plus, c'est même plus juste parce qu'il n'y a que des voix. Il y a beaucoup de voix, en tous les cas. Il y a la narration, mais il y a beaucoup de voix. Et puis il y a des sons tout le temps. Il y a des sons. La mer est à côté. Donc il y a des va-et-vient comme ça entre le premier étage et le rez-de-chaussée via l'escalier. L'escalier qui opère des fondus enchaînés. Et autour, il y a les va-et-vient, le flux et le reflux de la mer. Tout ça, c'est... Et tout ça a fait sens et corps malgré moi, l'impression.
On pourrait dire aussi, Olivier Steiner, qu'il y a quatre murs dans cette maison qui s'appellent, plus philosophiquement, l'abandon, la domination, l'obéissance, la puissance.
Ouais. Et l'abandon en premier. Je dirais que l'abandon, c'est le toi. Enfin, c'est le toi. Non, le toi, ce serait le cinquième mur, le mur, le mur du haut. Non, mais l'abandon, c'est ça le vrai point commun entre la scène de sexe, qui est une scène qui est un rapport sexuel particulier, puisque c'est un rapport sexuel de domination-soumission. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la domination-soumission. Je renvoie tout le monde à Le cruel et le froid de Gilles Deleuze, par exemple.
Deleuze, que vous citez en exergue.
Oui.
Ce sont les organismes qui meurent, pas la vie.
Ouais. C'est à la fois... J'aime beaucoup, beaucoup cette phrase, parce que comme souvent les phrases de Deleuze, elles sont extrêmement simples et foudroyantes. Et c'est à la fois... On ne sait pas si c'est un constat ou une injonction ou une invocation. C'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les organismes qui meurent et pas la vie. En même temps, on n'en est pas tout à fait sûr. Et ce serait tellement bien si la vie ne mourait pas. Quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est pour ça que je l'ai placé en exergue.
La vie privée d'Olivier Steiner est publiée à l'Arpenteur chez Gallimard. Du jour au lendemain, Philippe Palares, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.